Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'un tango fou entre l'actu et l'humour. Toute la question est de savoir qui mène, l'actu ou l'humour. Pour le salut de nos cartes de presse, il vaudrait mieux que ça soit l'actu. Hélas, quand je réécoute cette émission en podcast pour tâcher de comprendre où ça a pêché, eh ben, je comprends assez facilement. Et ce matin...
Un lapin. C'est sorti tout seul. Ce matin, un lapin, tu sais, ça vient comme ça.
Hein. A un chasseur, c'était un lapin.
Qui?
C'était un lapin qui...
Oui, heureusement, Debout les copains, c'est aussi l'érudition de Fabrice Almeida. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui, ce matin, à l'occasion du tirage au sort de la Coupe d'Afrique, revient sur l'histoire de cette compétition qui dépasse le cadre purement footballistique.
Merci d'écouter Europe 1 en ce mardi 2 avril.
C'est le vendredi.
Et on n'est pas vendredi, du tout le 2 avril, on a un petit peu le 12.
Non, on n'est pas le 2 avril et en plus on est vendredi.
Non, j'ai suivi bêtement ce qui est marqué sur le conducteur, moi c'est cher. 5h, 7h, c'est Mathieu Noël et il est 6h, ça c'est certain.
Ça c'est sûr. Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce vendredi, vendredi 12 avril. Bonjour Céline Calva.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
L'homme qui accusait Pierre Palmade de l'avoir violé a fini par avouer qu'il avait menti. L'acteur est ressorti libre après plusieurs heures de garde à vue. 8e vendredi de mobilisation pour les Algériens, les manifestants demandent le départ des proches de Bouteflika. Et puis les États-Unis réclament l'extradition de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, arrêté hier à Londres après 7 ans enfermé dans l'ambassade d'Équateur. L'acteur Pierre Palmade est donc ressorti libre hier après de longues heures interrogé par la police judiciaire. L'humoriste de 51 ans était accusé de viol par un jeune homme de 20 ans qui a fini par revenir sur ses accusations. Les précisions, signé Pierre de Cossette.
Le plaignant n'a pas tenu longtemps face aux enquêteurs. Il s'est rétracté. Ses accusations, la police judiciaire les avait d'emblée considérées avec prudence parce que l'appel au 17, c'est Pierre Palmade qui l'avait composé. Après une rencontre dans une boîte gay du quartier du Marais, les deux hommes avaient prolongé la soirée chez l'humoriste, non loin de là, jusqu'à ce qu'au petit matin, peut-être sous l'effet de la cocaïne, le jeune homme commence à s'en prendre à l'appartement. À leur arrivée, les policiers trouvent des objets brisés par terre, ainsi qu'un écran plat, de la vaisselle, des bouteilles d'alcool. Surexcité, le jeune homme accuse alors Pierre Palmade de viol et afin de tirer tout ça au clair, tous deux sont placés en garde à vue. Le comédien, mis hors de cause hier soir après une dizaine d'heures devant les policiers, souhaite aujourd'hui passer à autre chose, nous dit son entourage. Son accusateur, lui, était toujours entendu hier soir par la PJ.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Julian Assange redoute son extradition vers les États-Unis. Le fondateur de Wikileaks, interpellé hier à Londres dans l'ambassade d'Équateur où il était réfugié depuis 7 ans, est poursuivi pour piratage informatique. Ce matin, on apprend qu'il vivait dans une pièce de 18 mètres carrés, seul et sans lumière naturelle.
Cette question, Céline, les manifestations en Algérie aujourd'hui vont-elles être réprimées?
Nouvelle journée de mobilisation contre le pouvoir en place après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Avec un mot-clé sur les réseaux sociaux, ils partiront tous. Alors que la présidentielle a été fixée au 4 juillet par le nouveau chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah. Sébastien Krebs, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Alger. Sébastien, la répression s'est intensifiée ces derniers jours.
Oui, depuis quelques jours maintenant, les quarts de force anti-émeute ont envahi le centre-ville d'Alger. Des lignes de policiers casqués, boucliers en main, gardent les lieux symboliques où les manifestants avaient l'habitude de se regrouper. On a vu des rassemblements pourtant calmes et pacifiques réprimés à coups de canon à eau et de gaz lacrymogène. Il y a même eu des arrestations, mais ça n'a eu à ce stade aucun effet visible. Nous n'avons plus peur, disent les manifestants.
Ils ont essayé juste d'estimer un petit peu la situation face à de la lacrymogène. Est-ce qu'ils vont se retirer? Mais on n'a pas bougé. Et on va pas bouger. On a décidé que vous partez. Tout le monde va partir.
Et tout le monde, eh bien, c'est non seulement le président par intérim nommé cette semaine, Abdelkader Ben Salah, mais aussi le chef du gouvernement, le président du Conseil constitutionnel, tous les proches de Bouteflika qui détiennent encore les clés du pouvoir. Ces étudiantes espèrent une marée humaine.
Ils essaient d'imposer ce Ben Salah, mais on n'accepte pas. On veut se libérer de ce gouvernement.
On veut un changement radical.
Et ils rejettent massivement le scénario d'une élection présidentielle dès le 4 juillet, comme annoncé, trop tôt, trop vite, et surtout une aucune confiance dans les hommes de Bouteflika pour organiser un scrutin libre.
Sébastien Krebs, envoyé spécial d'Europe 1 à Alger et puis au Soudan, des milliers de manifestants se sont rassemblés hier soir à Khartoum devant le siège de l'armée malgré un couvre-feu imposé. Hier, le président Omar el-Béchir, qui dirigeait le pays depuis 30 ans, a été renversé par un coup d'état de l'armée qui a aussitôt annoncé une transition militaire de 2 ans. L'Union européenne appelle l'armée à un transfert rapide du pouvoir aux civils. Environ 70 personnes débarquées hier soir sur l'île italienne de Lampedusa soldats après avoir été interceptés sur une embarcation par les autorités. Ils ont déclaré être de nationalité tunisienne et libyenne. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, a tweeté que le pays était au travail pour leur expulsion.
Europe 1, 6h04.
Y voir plus clair sur le code du travail, ça va bientôt être possible.
Oui, à partir du 1er janvier 2020, en allant sur le site du ministère du Travail, on pourra obtenir des réponses très claires et individualisées sur les questions en matière de droit du travail. Ce nouvel outil va s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Yves Struyou, le directeur général du travail, l'a présenté hier.
L'objectif, c'est que tout salarié, tout employeur qui a une question très pratique en matière de droit du travail puisse la poser dans son français à lui, et obtenir une réponse la plus claire possible dans un langage courant, mais juste sur le plan juridique. Un exemple, le salarié veut démissionner de son entreprise. Quelles sont ses obligations? Il tapotera code du travail numérique, il mettra ses mots-clés ou sa question. Et comme on ne peut pas répondre à cette question sans connaître la convention collective, on va lui donner des clés pour retrouver la convention collective applicable, en lui donnant par exemple le bon conseil, regardez votre bulletin de salaire. Et ensuite, démission, il aura la réponse sur « je suis tenu à un préavis ». C'est aussi un code du travail qui évoluera de telle manière à ce qu'avec le temps, on puisse intégrer le maximum d'accords d'entreprise, de telle sorte que si par exemple le salarié pose la question « quel est le salaire auquel je peux prétendre dans telle entreprise ?», on puisse lui donner la réponse.
Au propos recueilli par Olivier Samin, plusieurs milliers de retraités ont défilé partout en France hier pour défendre leur pouvoir d'achat. C'était la 7e journée de mobilisation des seniors depuis l'élection d'Emmanuel Macron. La première sonde israélienne à destination de la Lune s'est écrasée lors de son alunissage en raison d'une panne de son moteur survenue à la dernière minute. Le PDG de Walt Disney a lancé une violente charge contre les réseaux sociaux, estimant qu'ils étaient un outil de promotion redoutablement efficace. Et je cite qu'Adolf Hitler aurait adoré.
Il est de retour. Céline Dacosta l'attendait avec tellement d'impatience. Matt Pokora sort son 8e album.
Ça s'appelle Pyramide et c'est un album de retour aux sources, comme l'a confié le chanteur Adrian Chinuda.
Quand je danse, quand tu danses.
J'avais besoin de me retrouver et pour moi c'est ça, c'est ces sonorités-là, un peu plus pop urbaine, un peu plus R&B, ce avec quoi j'ai commencé en fait, tout simplement. J'ai voulu retourner un peu à ce qui fait l'essence même de Matt Pokora, j'ai envie de dire. La manière dont je suis arrivé, c'était avec cette musique-là. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est cette musique, ces rythmiques-là, ces sons-là qui m'ont donné envie de performer, de chanter, de danser. 80% des chansons de cette planète sont faites d'amour ou de relations ou de séparation ou de chagrin, etc. Donc, parce que c'est un peu un thème commun à tout le monde. Et je pense que c'est comme disait Gainsbourg, raconte leur histoire, pas la tienne. Il faut que les gens se reconnaissent dans les chansons. Donc c'est un thème forcément universel, l'amour. Pour la première fois, à l'approche d'une sortie d'album, je peux dire que ouais, je suis serein parce que je me dis que je suis en accord avec moi-même. Mon album me ressemble et que j'ai pas fait de concessions. Et après, voilà, bien évidemment que j'espère que mes chansons toucheront un maximum de gens.
Et ça, bah, c'est de groover quand même. Nous sommes dans une tranche info. Arrêtez de vous déhancher comme ça, c'est bien gênant. Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Céline, chez qui je ne sais pas ce qui au fond m'attire le plus. Est-ce son talent journalistique, sa renversante beauté ou son incroyable modernité?
Il s'agit là d'une histoire de corne-cul.
Je ne sais pas, mais en tout cas, son nouveau statut Facebook me redonne l'espoir.
Ah, c'est compliqué. Très très compliqué.
Yes.
Europe 1. 5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et aujourd'hui, à l'occasion du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, Fabrice Delmeda revient aux origines de cette compétition, qui est beaucoup plus qu'un simple rendez-vous sportif.
Bon réveil à tous, il est 6h07. Il est 6h09, Mathieu Noël.
Et j'ai hâte que nous fassions un point sur la météo.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
La météo, je le précise, de ce vendredi 12 avril et non pas de ce mardi 2 avril, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure.
C'est moins déjà,
ça. Et pour y avoir une confusion chez nos auditeurs, il fait froid en ce 12 avril.
Les auditeurs qui, comme moi, sont bien réveillés.
Oh oui, parfois certains mieux que vous, c'est ça le problème.
Oui, la faute, ce froid, cette masse d'air polaire qui s'enfonce en ce moment sur la moitié nord de l'Europe. Les températures baissent encore un petit peu aujourd'hui, avec des gelées ce matin en pleine, mais elles baisseront surtout samedi et dimanche, où dans la matinée, on aura des valeurs très fraîches, surtout sur la moitié nord, puisqu'on attend une moyenne de moins 1 degré. Côté ciel, en revanche, mis à part dans le sud-est, l'extrême sud-est, hein, les Alpes, le comté niçois, la Corse où le ciel est pluvieux et même orageux cet après-midi avec de la grêle. Le temps sera ensoleillé, on aura juste un ciel un petit peu plus nuageux dans le sud-ouest ce matin avec quelques gouttes, mais les éclaircies reviendront également sur ce secteur cet après-midi.
Merci Céline. Céline n'est pas très réveillée, mais vous l'êtes et vous nous le faites remarquer via les réseaux sociaux.
Exactement. Il y a 27 ans, Disneyland Paris ouvrait ses portes et depuis ce matin 5h, on vous demande justement si vous étiez un personnage de Disney, lequel seriez-vous ? Vous avez été très nombreux à nous répondre, vous pouvez continuer à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et par exemple, Thierry nous dit « Je serai cet éternel optimiste ».
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire.
Et parmi toutes les réponses, on va remercier Cara Noyak qui nous dit qu'elle adorerait être cette héroïne.
Libérée !
Oh non !
Délivrée !
Est-ce qu'on va vraiment la remercier ? Parce que là, on va l'avoir dans la tête toute la journée.
C'était fait exprès. C'est une coquine.
J'en connais d'autres.
Oui.
Merci Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il est au journalisme ce que le couteau suisse est à la coutellerie. Revue de presse, journal des sports, journal tout court, Jérôme Lacroix sait tout faire. Et de même que certains couteaux suisses sont fournis avec une mini pince à épiler bonus, Jérôme est lui fourni avec un mini sens de l'humour bonus, une option que je vous conseille vivement.
Les retraités ne sont pas tous logés à la même enseigne. Les explications de Didier Haute, porte-parole des retraités FO.
En même temps, monsieur Haute, chez Mathieu Noël, c'est normal.
Ah, c'est bon de rire, Jérôme, mais n'allons pas nous casser une côte. On passe au journal des sports.
Je suis pas toujours le couteau le plus aiguisé du tiroir.
Ça roule là, c'est dangereux. C'est un terrain glissant.
Oui, non, mais n'y allez pas. À la une du journal des sports, Jérôme, l'enfer du Nord.
Chez le Nord.
Le Nord et l'enfer de ses pavés, oui, dimanche. C'est Paris-Roubaix, la reine des classiques cyclistes. Les coudes qui tremblent sur le parcours chaotique, la poussière, la boue. Et la redoutable trouée d'Arambert et ses 2,5 km de pavés infernaux. Alors certains coureurs ont reconnu ce morceau de bravoure dès hier. À son modeste niveau, notre reporter Jean-Jacques Herry en a fait de même. Sensation.
La première sensation, c'est que ça fait mal au bras, ça secoue aussi en fait toutes les parties du corps, depuis le guidon jusqu'au haut de la tête. Ce qu'il faut, c'est prendre un peu de vitesse pour essayer de se faire secouer le moins possible. Il faut aussi rouler au milieu, c'est là que les pavés sont peut-être le moins disjoint. Ça secoue et ça glisse.
Ça secoue et ça glisse. Voilà, reportage complet de Jean-Jacques Herry, très savoureux à retrouver dans la matinale. La course dimanche, départ à 11h avec en favori Peter Sagan, vainqueur sortant. Ou pourquoi pas le français Arnaud Démare, 22 ans qu'on attend une victoire française depuis Frédéric Guédon en 1997.
Les Bleus du handball pris en flagrant délit.
En flagrant délit de manque d'engagement. Le sélectionneur Didier Dinard l'avoue lui-même. Les Français battus par les Portugais hier pour la première fois depuis 70 ans. 33-27 en qualification pour l'Euro 2020. Qualification pas remise en cause, mais ça fait tâche. Suite des éliminatoires dimanche à Strasbourg, retrouvailles avec ses Portugais. Le golf et coup d'envoi cette nuit en Géorgie du Masters américain d'Augusta. C'est du Grand Chelem, premier tour. Et bon début de Tiger Woods. Il rend une carte de 70 à seulement 4 coups des premiers, les Américains DeChambeau et Koepka. Fin du tournoi dimanche.
Et dimanche, c'est aussi le marathon de Paris.
60 000 inscrits, record pour les 42 km 195 parisiens des Champs-Élysées à la Porte Dauphine. Alors ça y est, si vous participez, vous êtes fin prêt physiquement. Mais attention à la déconcentration de dernière seconde, le consultant athlétisme d'Europe 1 Jean-Claude Perrin vous indique la bonne attitude à adopter juste avant le départ.
Ne pas se laisser refroidir, ne pas se laisser gagner par l'immobilité et surtout par l'ambiance. On a, sur le plan psychologique, on est dispersé, il y a du monde, il y a des amis, donc essayer d'augmenter son niveau de concentration par un corps qui est disponible, qui est bien prêt et surtout un corps attentif.
Des propos recueillis par Corinne Boulou. On attend aujourd'hui les résultats du référendum lancé mardi par la Fédération française de rugby. La question, seriez-vous d'accord avec la nomination d'un sélectionneur étranger à la tête du 15 de France masculin ? Question posée aux 1800 clubs de France.
Le foot et la Ligue 1 ce soir.
Début de la 32e journée, Dijon à Amiens 19h et Nantes-Lyon 20h45. Hier soir en Ligue Europa, on notera les victoires de Benfica 4-2 sur Francfort et d'Arsenal 2-0 contre Naples en quart de finale aller. Match retour jeudi prochain.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
On est en Ligue 2, entonnent les 5000 spectateurs du stade Paul Lignon de Rodez. Les footballeurs ruthénois sont promus de la 3e à la 2e division. Superbe une ce matin, pleine page du quotidien Aveyronnais Centre Presse. Rodez en Ligue 2, c'est le titre. Victoire hier soir devant leur public 3-1 contre Boulogne-sur-Mer. 26 ans que le club attendait le retour à ce niveau.
Félicitations. Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et tout de suite, on retrouve l'intime des grands de ce monde. François Hollande l'appelle son Dalmédou. Il est notre expert histoire et ce week-end, il goûtera un repos bien mérité dans son triplex de l'avenue Foch.
Des dames de petite vertu s'y promènent déjà.
Oui, non, mais ça après, vos loisirs ne nous regardent pas. Voici Fabrice Dalméda.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
C'est aujourd'hui qu'a lieu le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, qui commencera le 21 juin prochain. En quoi est-ce un événement historique ?
Ah, c'est un concentré de l'histoire des États africains, car cet événement est né de la volonté des rares pays indépendants, déjà membres de la FIFA, en 1956. Ils étaient quatre. Afrique du Sud, la plus vieille fédération du continent, Égypte, Éthiopie et le tout jeune Soudan. Ce sont eux qui ont décidé de fonder une confédération africaine de football, fondée le 8 février 1957 à Khartoum. Et juste après, la Coupe d'Afrique des Nations commence toujours à Khartoum le 10 février 1957, avant la Coupe d'Europe, je le rappelle, qui commence seulement en 1960. Le trophée est remporté cette année-là par les Pharaons, c'est le surnom de l'équipe d'Égypte. L'Afrique du Sud est disqualifiée pour avoir effectué une sélection raciste.
Et la décolonisation a changé la donne.
Bah oui, à partir de 1960, les adhésions se multiplient, les nouveaux États y affichent leur souveraineté et les équipes expriment le nouvel imaginaire national. Les Lions indomptables du Cameroun, les tenants actuels du titre, doivent leur nom à l'emblème du pays, symbole de puissance. Pareil pour les Lions du Sénégal. Le Lion de l'Atlas des Marocains s'impose quand cet État réintroduit les félins dans les années 70. Les Fennecs, c'est le surnom de l'équipe d'Algérie, sont aussi une espèce protégée et une mascotte. En revanche, les aigles maliens doivent leur nom à leur premier maillot de foot avec ce motif au dos qui avait été obtenu par un entraîneur allemand. Les écureuils du Bénin, eux, c'est mignon, très agile. C'est le président de leur fédération, le premier président de leur fédération qui avait trouvé ce nom. Et évidemment, l'éléphant de la Côte d'Ivoire est un très ancien symbole ethnique.
Mais les États n'interviennent pas dans la compétition.
Ah, ils ont bien eu cette tentation. Comme quand le président zaïrois Mobutu racheta les contrats des joueurs de la sélection nationale pour préparer la finale de 1974. Mais tout se joue sur le terrain avec des joueurs entrés dans la légende. Roger Milla, JJ Okocha et bien sûr aujourd'hui Mohamed Salah.
Roger Milla qui jouait encore en Coupe du Monde en 1990, Coupe du Monde en Italie, a plus de 40 ans, je crois. 42 ans. Il est des joueurs de champ, il n'est pas gardien. Merci beaucoup Fabrice Dalméda.
À vous.
L'histoire à la rescousse de l'actualité, on vous retrouve lundi, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue le 5-7 qui vous informe sans négliger vos zygomatiques et même ce matin, vos ischios jambiers. Ce week-end aura lieu le Marathon de Paris et c'est aussi l'ouverture du salon du running. De plus en plus d'adeptes chaque année en France.
Pourquoi Claude est-il devenu ce qu'il est devenu ?
J'ai pas révisé là.
Ah, parce que tous les matins, il faisait son...
Son lit ?
Son jogging, bande de buse.
Son quoi ?
Son jogging. Et ça, c'est un exemple à suivre.
Magnolia !
Pourquoi de plus en plus d'entre vous deviennent accros comme Claude François à la course à pied ? Décryptage avec Mathieu Lemot, auteur du Dico du Running.
Bon réveil à tous, il est 6h18. Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Le chantier de l'EPR de Flamanville pourrait encore prendre du retard. L'agence de sûreté du nucléaire demande à EDF de mener de nouveaux travaux à cause d'un sérieux problème sur plusieurs soudures. Pierre Palmade est ressorti libre hier après une journée devant la police judiciaire. L'humoriste de 51 ans était accusé de viol par un jeune homme de 20 ans qui a fini par revenir sur ses accusations. Enfin, nouvelle mobilisation de Youth for Climate Paris. Un rassemblement est organisé devant l'Assemblée nationale à partir de 14h. Un autre rassemblement est prévu à la même heure à Lyon, place de la Comédie.
5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce vendredi 12 avril. L'actualité, c'est aussi, on le disait, le marathon de Paris dimanche. 60 000 coureurs sont attendus sur les lignes de départ pour 42 km 200 sur le bitume de la capitale. Pourquoi le nombre d'inscrits ne cesse d'augmenter ? Pourquoi s'imposer une telle épreuve ? Après quoi courent tous ces sportifs ? Bonjour Mathieu Lemot.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes rédacteur en chef adjoint chez GQ, auteur du Dico du Running et adepte aussi de la course à pied. Ma première question est toute simple. Dieu a inventé les trottinettes électriques. Pourquoi encore se fatiguer à courir ?
Parce que ça
c'est
fait
idiot.
Parce que ça fait du bien de courir.
Est-ce que ça fait... Alors déjà, on va commencer là-dessus. Est-ce que ça fait vraiment du bien ?
Monsieur est rentré en béquille. Hein,
oui, parce que... déjà, visiblement, on ne sait pas comment dire ça, visiblement. Vous ne participez pas à un moment. pas au marathon, ça déjà on peut le dire.
Pas cette année, non. Je me suis blessé. Ouais.
Est-ce que sur le côté bien-être du running, est-ce que ça fait vraiment du bien de courir ou ça fait, certains disent, ça fait mal au dos, c'est pas si bon que ça?
Alors ça peut effectivement faire mal au dos, dans les articulations, etc. Mais quand on fait une pratique adaptée et douce, ou en tout cas... bien réfléchi et coaché et avec des conseils.
C'est ça, il faut pas se lancer dans le running, il faut pas se dire tiens moi aussi je m'y mets, je pars tout seul dans un parc le week-end.
Et donc ça fait du bien sur le moment, c'est vrai que parfois c'est un peu dur, mais après coup on en ressent les effets.
Il faut dire aux gens qui ont envie de se lancer et qui ne se lancent pas, ça fait pas du bien sur le moment, ça fait du bien après. Quand on est revenu de la course, là on a ce qu'on peut dire une saine fatigue.
Ouais, on est une saine
fatigue.
Mais même pendant, hein, c'est-à-dire que c'est vrai que beaucoup de coureurs disent les 5-10 premières minutes, se disaient, bon, qu'est-ce que je fais là, quoi.
Mais le problème, c'est que je dépasse jamais ces 10 minutes. Donc,
et ben, vous saurez après, du coup. Essayez d'aller jusqu'au quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et vous verrez, ça fait du bien.
Avec une spécificité aussi, quand on parle du marathon de Paris et des plus grands marathons, c'est qu'il y a du public aussi. Oui. C'est une grande fête populaire. Je pense que ça compte aussi. Hein.
Ça compte. Ouais, ça compte quand il y a du monde. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, par exemple sur le marathon de Paris, quand on est au fin fond du Bois de Boulogne ou du Bois de Vincennes, là, ça compte énormément. Et un marathon comme New York que j'ai pu faire l'année dernière, par exemple, là, il y a du monde sur le bord de la route, du début à la fin. Et ça, c'est hyper motivant.
Alors, ce qui est beau, c'est que c'est un sport qui réunit hommes et femmes. La parité est respectée dans le petit monde du running.
Ouais, mais ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, parce que pendant longtemps, il y a eu des espèces de fausses croyances qui faisaient dire que si une femme courait plus de 2 km, il allait lui arriver certains malheurs. Oui, c'est des médecins disaient qu'il y avait, elles allaient perdre leur utérus. Que
d'accord, oui, des descentes d'organes, oui, ça me rappelle quelque chose.
Que les poils allaient leur pousser sur la poitrine, etc. Non, ça allait très très loin, quoi. Qu'elles allaient devenir hommes, en fait, en courant. Alors que,
voilà. Et elles se sont cachées pour pouvoir participer au marathon, les femmes?
Alors, il y a l'histoire de Bobby Gibb, ouais, en 66 à Boston, qui, elle essaye de s'inscrire comme tout le monde, et on lui refuse parce qu'elle est une femme, et elle dit, bah, qu'à cela ne tienne, je vais le faire quand même. Donc, elle s'est planquée dans un bosquet sur la ligne de départ, et une fois que les gens se sont lancés, elle s'est glissée dans la course, elle a essayé de se déguiser en homme avec un gros sweat, etc. Et elle avait peur de la réaction des spectateurs, des autres coureurs. Et ce qu'il y a d'assez joli dans cette histoire, c'est que les hommes qui étaient là lui ont dit « Non mais t'as le droit de courir, et la route est à tout le monde » et ils l'ont, entre guillemets, escorté jusqu'à l'arrivée.
Ça paraît loin quand même, cette époque. Et certains parlent d'addiction. Alors, pour moi, c'est une légende. Hein. Il paraît qu'il y a une addiction au bout d'un moment à la course à pied. C'est vrai que je connais certains amis qui, à force de courir, ne peuvent pas s'empêcher d'aller courir. Il faut qu'ils aillent courir tout le temps. Sinon, ils se sentent pas bien,
ouais, parce
physiquement.
On sécrète des hormones, on sécrète des choses en courant. Parce que quand on court, donc après 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, parfois une heure, on est une espèce de high, je sais pas comment le dire trop, mais on flotte, quoi. Et ça fait du bien, parce que c'est une sensation de bien-être qui est assez qui peut être rapprochée de certaines drogues pas légales.
Voilà qui devient intéressant. Voilà.
Vous voyez.
Est-ce que le marathon de Paris, vous diriez que c'est un marathon, je sais pas, est-ce qu'il y a différents degrés de difficulté dans les marathons, ou un marathon c'est toujours 42 km? Le marathon de New York n'est pas plus dur que celui de Paris? Ou est-ce qu'il y a des marathons plus durs que d'autres?
Si, il y en a qui sont plus durs que d'autres. Par exemple, celui de New York est assez compliqué, puisqu'il y a les ponts à passer. Il y en a 5 ou 6 de
mémoire.
Et
en quoi c'est dur de passer un pont?
Parce qu'il y a un dénivelé. Ça monte et ça descend.
Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, oui.
Alors que, par exemple, le marathon de Berlin est absolument plat. C'est pour ça que le record du monde y est battu régulièrement. Ouais.
Le running n'échappe pas aux évolutions numériques. Hein. Est-ce que cette hyperconnexion, d'après vous, avec applications, les réseaux sociaux sur lesquels on poste nos performances, pousse aussi à courir toujours plus et à ramener aussi des adeptes de la course à pied?
C'est-à-dire qu'on est dans le challenge permanent, en fait, par rapport à soi, et puis du coup par rapport aux autres aussi, d'une certaine manière. Et donc, tout le package numérique dont on a à disposition favorise ce genre de comportement, effectivement. Mais pour moi, c'est
j'ai pas l'impression que ça soit c'est plus un jeu de dire tiens regarde moi j'ai couru tant, est-ce que toi t'es capable de le faire. Il y a cette notion de battle dans certaines applis, mais
on peut se comparer avec d'autres,
on peut se comparer avec
d'autres personnes qui font
d'autres personnes, etc. Mais j'ai quand même l'impression que au fond du fond les gens le font pour eux d'abord quand même, quoi.
Et vous avez l'impression que c'est un phénomène de mode, le running, ou que c'est
c'est une mode qui dure depuis longtemps.
Oui, non, mais c'est ça. Non, mais parce qu'on en parle beaucoup, à chaque fois on dit de plus en plus d'inscrits, enfin c'est un record pour le marathon de Paris.
Ouais, ouais.
Est-ce que c'est un phénomène de mode ou c'est plus une tradition hygiéniste qui commence à
il commence à avoir cette tradition. Ouais, ouais, il commence à avoir cette tradition là, mais après les salles de sport sont pleines à craquer, les salles de yoga, de pilates, etc. aussi, donc ça fait partie d'un mouvement général de sport santé en règle générale qui est vraiment en train de s'ancrer en France notamment.
Je ne voudrais pas jouer une fois de plus les rabat-joie, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une contradiction, un paradoxe à vouloir courir en ville avec les niveaux de pollution qu'on a actuellement dans les grandes villes en France et ailleurs? Est-ce que c'est pas plus mauvais qu'autre chose pour nos poumons que de courir le long des quais, par exemple, à Paris, où il y a beaucoup de pollution à
vous
cause
sentez
de...
le garçon qui
oui,
veut
je cherche
vraiment
des excuses,
pas, mais vraiment pas y aller.
Oui, mais c'est vrai, excusez-moi, c'est des questions qu'on se pose avant d'aller.
C'est une vraie bonne remarque, parce que beaucoup de sites spécialisés font des articles là-dessus en disant attention, les jours où il fait très chaud déjà, ou les jours où de pic de pollution dans certaines villes, n'allez pas courir.
En fait, il faut aller courir quand il pleut.
Il faut aller courir
comme ça, les particules fines sont au sol.
Voilà, c'est ça.
Quand il pleut, qu'il fait froid. Donc, quand on n'a pas envie d'aller courir, le serpent se mord la queue. Voilà, merci beaucoup.
On sait que vous êtes un adepte des trottinettes, Mathieu.
Oui, oui, pardon, non, ça non plus. Merci, Mathieu Lemot. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint du magazine GQ, auteur du Dico du Running chez Flammarion et co-auteur des plus beaux endroits pour courir chez Grund. Merci d'avoir
été. Europe 1. Il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 du stratosphérique David Doucan, la météo, avec des températures assez fraîches, du soleil partout, excepté sur le sud-est.
Europe 1.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Oui, c'est l'heure de faire un point sur la météo avec vous, ma chère Céline Dacosta. C'est une belle journée dans l'ensemble.
Mais oui, puisqu'on aura beaucoup de soleil quasiment partout. Là où ça va rester perturbé, et ça toute la journée, c'est entre le sud-est et la Corse, avec ce matin des averses plutôt faibles, de la neige sur les Alpes du sud vers 1600 mètres d'altitude. Averses qui seront plus fréquentes cet après-midi, avec des orages, localement des chutes de grêle. On a un autre petit bémol plus léger, celui-ci, dans le sud-ouest, où on a pas mal de nuages ce matin, des Landes au midi tout. Quelques gouttes encore sont possibles, mais ça va se dégager cet après-midi et ce sera là aussi le retour des éclaircies. Pour les autres, on aura toujours un grand soleil cet après-midi avec juste un petit peu plus de neige sur la moitié nord. Et puis on note aussi le vent, le mistral et la tramontane qui vont bien souffler jusqu'à 80 km à l'heure toute la journée.
Mais c'est en ce qui concerne les températures que le bât blesse, hein, il fait froid.
Oui, les températures comme prévu continuent de baisser. On est 3 à 6 degrés sous les normales de saison, avec des gelées encore ce matin, moins 2 degrés à Romorantin, moins à Vichy. Il fait 1 degré à Metz, au Touquet, 2 à Rouen, 4 à Lille, 6 à Paris, 9 à Tarbes et jusqu'à 14 encore à Montpellier où c'est plus doux. Et puis cet après-midi, la moyenne ira de 10 à 17 degrés, 15 à Paris, 17 avant près de la Méditerranée, un petit peu moins sous la pluie entre Nice et Ajaccio.
Comme on entend
alors
les rires de baleine.
Profitez des blagues.
Les rires de baleine que nous entendons. Faites votre blague, David Doucan.
C'est ça, au fond de la classe,
là-bas.
C'est là que le bas baisse et non pas que le
et
bas
voilà,
baisse.
Et voilà, ouais, c'est astucieux. Oui. C'était la petite astuce en plus de David Doucan.
Il manque la timbale.
Où sont
là.
Vos auteurs? Vous avez des auteurs?
Merci Céline. Mais non, c'est
ça,
ton problème.
Ça travaille.
Merci.
Non,
mais...
Europe 1. 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains. 2 heures en compagnie de journalistes les plus performants d'Europe 1. Et aussi avec moi, Eva et Céline Dacosta. Céline, la Madame Plus de la rédaction qui a toujours une info en plus, cadeau. Vous connaissez Europe 1 va plus loin, découvrez Europe 1 va trop loin, la rubrique qui, bref, comme son nom l'indique, quoi.
On va beaucoup parler des retraites aujourd'hui. Vous savez que je vais très souvent, moi, à la retraite. La retraite, j'y vais souvent. La retraite, en portugais, c'est les toilettes. Je vous jure que c'est vrai. Je vous en prie, ça me fait plaisir.
Oh bah nous aussi, c'est ça nous fait plaisir. C'est pour elle. À suivre, eux, leurs infos. En plus de son jamais en trop, politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent avec notamment au programme le compte à rebours avant l'intervention d'Emmanuel Macron. Mais d'abord, je le sens impatient. David Doucan, on passe au journal?
Je veux mon neveu.
On y va.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. La déco. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Le pire naufrage depuis le Titanic, l'Estonia, engloutie en mer Baltique. 852 personnes étaient mortes, c'était en 1994. 25 ans plus tard, quelqu'un va peut-être payer. Un procès commence aujourd'hui. L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi entre dans l'ère post-Ghosn. Premier conseil aujourd'hui avec les nouveaux dirigeants. Objectif, apaiser les tensions entre Paris et Tokyo. Le cavalier seul, après avoir défendu une position minoritaire sur le Brexit, voilà qu'Emmanuel Macron s'oppose aux négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. Mais est-ce le signe d'un isolement du président français ? Elles auront bien lieu.
Europe 1.
852 personnes avaient disparu dans les eaux noires et glaciales de la Baltique. Je vous parle du naufrage de l'Estonia il y a 25 ans. Depuis, les familles essaient d'obtenir réparation. Ce jour est peut-être venu. Un millier d'ayants droit et survivants de cette catastrophe réclament 40 millions d'euros d'indemnité au constructeur allemand du ferry, mais aussi à une entreprise française, Bureau Veritas, qui avait certifié le navire. C'est le tribunal de Nanterre qui en jugera à partir d'aujourd'hui. Jean-Gabriel Bourgeois.
L'Estonia, c'est la fierté de la toute jeune République balte. Comme tous les jours, le ferry quitte le port de Tallinn ce 27 septembre 1994. Mais en pleine nuit, à 1h22, l'équipage lance son premier SOS.
This is Estonia. Mayday.
Le bateau tangue et se retourne très rapidement. Plus de 700 personnes sont prises au piège. Les autres se jettent dans l'eau glaciale. En moins d'une demi-heure, le mastodonte de 150 mètres de long disparaît des radars. L'Estonia a sombré dans la Baltique. Des tonnes d'eau se sont engouffrées par l'avant, parce qu'on appelle l'étrave rabattable, une porte qui s'avérera défectueuse. Pour maître Maxime Cordier, qui défend les victimes, le bureau Veritas, chargé de contrôler les équipements, était forcément au courant.
Ils ont même fait un contrôle en cale sèche 3 mois avant le drame, on aurait dû s'apercevoir qu'il y avait un problème. Après le naufrage, l'intégralité de la flotte des étraves rabattables ont été soudées. Donc c'est bien que le bureau Veritas a reconnu qu'il y avait un problème d'étanchéité des étraves rabattables.
Aujourd'hui, le bateau repose toujours à 85 mètres de profondeur dans les eaux de la Baltique, une zone sanctuarisée dont l'exploration a été interdite par les autorités scandinaves.
Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1. Julian Assange a dormi en prison cette nuit. Le fondateur de Wikileaks a été arrêté à l'ambassade d'Équateur à Londres hier. C'est là qu'il était réfugié. Il a été présenté à un juge et envoyé en détention. Mais il risque surtout maintenant l'extradition vers les États-Unis où il est poursuivi. Suivi pour piratage informatique, le récit de notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba.
Teint gris, longs cheveux et barbe blanche, dans le box des accusés, Julian Assange, 47 ans, ressemble à un vieillard. Mais le fondateur de Wikileaks, qui vient de passer 7 ans enfermé dans l'ambassade d'Équateur à Londres, se montre combatif. En se levant, il adresse un pouce levé à la galerie du public et il déclare devant le juge qu'il est privé d'un procès équitable au Royaume-Uni, car le but du gouvernement britannique est de le livrer aux autorités américaines. Le juge qualifie sa défense de risible et le traite de narcissique, avant de le reconnaître coupable d'avoir enfreint les conditions de sa liberté provisoire en 2012 et de l'envoyer en prison. Pendant ce temps, devant le tribunal de Westminster, une vingtaine de soutiens d'Assange indignés protestent au cri de « pas d'extradition, libérez Assange ».
S'il était extradé aux États-Unis et condamné à la prison à vie, ça dissuaderait les lanceurs d'alerte de publier quoi que ce soit qui révèle les agissements malhonnêtes d'un gouvernement.
À la sortie du tribunal, son avocate parle d'un dangereux précédent pour la liberté de la presse et promet de combattre cette demande d'extradition qui sera examinée par un juge britannique le 2 mai prochain. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi veut sortir du brouillard. Une nouvelle organisation est éprouvée ce matin. C'est le début de l'ère post-Ghosn. Un conseil de l'alliance se réunit, resserré autour des principaux dirigeants des trois constructeurs. Le but est d'éviter les erreurs du passé et d'apaiser les tensions entre Paris et Tokyo. François Geffrier.
Autour de la table, 4 hommes, 2 japonais, les PDG de Nissan et de Mitsubishi, et 2 français, le tandem qui dirige Renault depuis janvier, Thierry Bolloré et Jean-Dominique Senard. Fini la gestion par un homme tout puissant, comme à l'époque Carlos Ghosn, place au consensus. C'est le mot-clé martelé en interne. Ces 4 leaders se verront une fois par mois, à Tokyo ou à Paris. Hier soir, c'était le moment convivial au restaurant L'Atelier, la prestigieuse adresse de Renault sur les Champs-Élysées, avec tous les cadres dirigeants des 3 marques. Ce matin, place au travail.
en petit comité, sans déclaration ni communiqué de presse. Tout juste y aura-t-il une photo de famille sur Twitter quand la rencontre sera terminée. Sur le fond, rien ne change dans les projets de l'Alliance. Partage de coûts et d'usines, innovation vers la voiture autonome et connectée. Sur la forme, il y a un rééquilibrage. Mitsubishi, dernier arrivé dans l'Alliance, est désormais traité à égalité avec les deux autres. Il fallait aplanir les choses avec les Japonais, nous dit-on dans l'entourage de Bruno Le Maire. On voulait une gouvernance renforcée. On y est, indique cette source. C'est plus équitable, reconnaît une responsable de Force ouvrière chez Renault. Les salariés ont besoin de tout, sauf de spéculation et de guerre de pouvoir.
Les informations de François Geffrier du service économie d'Europe. Une bonne nouvelle sur le front économique, justement. Selon l'enquête annuelle de Pôle emploi, les intentions d'embauche pour 2019 sont en forte hausse. C'est presque plus 15%. Cela représente près de 350 000 projets de recrutement supplémentaires. Mais avec toujours le même problème, le même point noir, les entreprises anticipent des difficultés pour trouver les bonnes personnes.
À suivre dans ce journal, Emmanuel Macron seul contre tous. La France s'oppose à l'ouverture de négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis, mais elles auront quand même lieu. À tout de suite.
Bon réveil à tous, il est 6h36. Europe 1. Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal, David Doucan. Emmanuel Macron, seul contre tous.
Oui, la France s'oppose à l'ouverture de négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. En cause, la sortie de l'accord de Paris sur le climat décidé par Donald Trump. Mais comme sur le délai du Brexit, le président français est minoritaire et les discussions avec les USA auront bien lieu. Isabelle Horry.
Et oui, car la France seule n'a pas le pouvoir de bloquer les négociations. C'est un vote à la majorité des 27. Emmanuel Macron a beau plaider que l'Europe doit être exemplaire pour le climat et qu'elle doit faire entendre sa voix, ses partenaires, eux, ont décidé de faire la sourde oreille. Alors ça fait des mois que ce dossier est dans les tuyaux, c'était une des conditions après l'armistice commercial conclu l'été dernier entre Donald Trump et le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Beaucoup de pays européens ont peur de représailles américaines si les choses n'avancent pas. On sait, Berlin s'inquiète pour ses voitures, mais il y a aussi d'autres menaces venues de Washington. Donald Trump a lâché une salve de tweets qui vise Airbus, par exemple. Ceux qui veulent ces discussions pointent que la France a quand même obtenu des garanties sur l'environnement et que l'agriculture ne fera pas partie des négociations. Certains diplomates européens accusent Paris de faire de la politique intérieure à quelques semaines des élections européennes, argument balayé par l'Élysée. Parfois, en Europe, il faut assumer le rôle de vigie, dit-on dans l'entourage du président.
Isabelle Horry, la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. En Algérie, les contestataires espèrent une très forte mobilisation aujourd'hui. C'est le premier vendredi depuis l'annonce d'une élection présidentielle le 4 juillet prochain. Les protestataires craignent que ce scrutin soit frauduleux et ne serve qu'à conforter le pouvoir intérimaire dont ils réclament le départ. Nous vous en avons souvent parlé, les banques ne veulent plus prêter aux partis politiques. Résultat pour ces élections européenne, à l'exception de La République En Marche, les partis peinent à trouver des financements. Alors, ils se montrent inventifs en ayant recours à l'emprunt populaire. Explication Victor Dolande.
Parti politique cherche investisseurs particuliers. En quelques clics, vous pouvez désormais prêter de l'argent. Manon Aubry, tête de liste de la France insoumise aux élections européennes, explique la démarche dans une vidéo.
En nous prêtant de l'argent, vous devenez notre banque et vous pouvez nous faire confiance puisqu'on vous rendra l'argent.
Succès immédiat. En à peine une semaine, le parti de Jean-Luc Mélenchon a récolté un peu plus de 2 millions d'euros, le plafond autorisé par la loi. C'est plus qu'Europe Écologie Les Verts, 500 000 euros en 4 mois. Thierry Brochot, le trésorier du parti, avance un argument supplémentaire pour séduire les futurs investisseurs.
Nos souscripteurs seront remboursés dès le mois de juin, c'est-à-dire bien avant le remboursement de nos dépenses de campagne par l'État, simplement parce qu'on a considéré que c'était un petit peu un fonds d'amorçage en attendant que les autres ressources se libèrent.
Le Rassemblement National a lancé sa plateforme lundi, 300 prêts en 4 jours. Jeanlin Lacapelle, vice-président du mouvement, sort ses arguments.
Le taux d'intérêt que l'on propose est à hauteur de 5%, donc c'est très incitatif et supérieur à n'importe quel établissement financier d'ailleurs.
Et pour les gros financiers, ceux qui prêteront plus de 50 000 euros, le Rassemblement National vous promet même un dîner en compagnie de Marine Le Pen.
Victor Dolande pour Europe 1. C'est un revers pour l'ambition spatiale de l'État hébreu. Israël essayait hier pour la première fois de placer une sonde sur la Lune. L'opération a échoué et l'appareil s'est écrasé sur notre satellite à cause d'une panne de moteur. C'est fini, Mathieu.
C'est fini, mais j'étais suspendu à vos lèvres et à votre regard.
Non, mais sinon, on peut essayer ça aussi, du silence pendant 5 minutes.
Tout à fait. Ce qui suit n'est pas du tout du silence, puisque c'était le journal de David Doucan, que je remercie, David, dont la principale force, l'esprit critique, est aussi le plus grand défaut. Comme on le constate chaque jour durant la météo qui précède son journal, où il prend un malin plaisir, je dirais même un plaisir vicieux, à savonner la planche à Céline Dacosta en ne cessant de jacasser pour la déconcentrer, quitte à dire n'importe quoi.
Après dissipation de quelques brouillards qui sont parfois givrants, donc attention.
Les fameux brouillards givrants. Ils sont célèbres, hein. Il y a les brouillards givrants, hein. Il y a le vent d'Otan. J'ai jamais su ce que c'était le vent d'Otan. Non.
Ça va pas.
Elle me lance des trucs. Mais le vent d'Otan, j'aimerais bien savoir ce que c'est un jour.
David qui n'est pas critique que vis-à-vis de Céline, rassurez-vous, les critiques vis-à-vis de tout, même les sujets de son propre journal.
Mais c'est assez pour trouver la meilleure solution possible. S'il vous plaît, ne gaspillez pas ce temps.
S'il vous plaît, ne gaspillez pas ce temps.
On dirait un doublage de Stallone.
Bon week-end, David, hein. Essayez un petit peu de décharger ce fiel ailleurs. Dans votre quotidien.
Peut-être dormir.
Peut-être dormir. Voilà, peut-être prendre des tisanes, vous apaiser.
Manger un peu, faire du yoga.
Nous, on passe à la météo, les amis.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Un petit mot pour Daniel, peut-être, David.
Non, mais moi, on me coupe le sifflet à chaque fois, de peur que je me.
Excusez-moi, mais il y a une hiérarchie. Il y a Daniel Moquet en haut et vous, juste en dessous, juste derrière. Belle journée, sauf dans le sud-est, hein, Céline Lacoste.
Oui.
N'importe quoi.
Oui, dans le sud-est et même dans le sud-est de la région PACA, pour être précis, ça va rester perturbé aujourd'hui avec des averses assez faibles ce matin qui seront fréquentes et orageuses. On vous entend ! Des averses qui seront fréquentes et orageuses, de la grêle cet après-midi même et puis de la neige sur les Alpes des 1600 mètres pour les autres. Grand soleil. Petit bémol juste ce matin dans le sud-ouest où on a un petit peu plus de nuages, mais ça va se dégager cet après-midi. Côté température, ça baisse encore, on le sent bien ce matin. Ça va continuer à baisser jusqu'à lundi avec des gelées le matin, surtout sur la moitié nord. Dimanche, moins 1 degré en moyenne pour dimanche. Et puis cet après-midi, la moyenne ira de 10 à 17 degrés du nord au sud, jusqu'à 20 degrés à Montpellier, mais seulement 15 degrés à Bastia sous les orages.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, vous aimez les analyses argumentées ?
Kim Kardashian étudie le droit pour devenir avocate. Non, a tout vu.
Écoutez plutôt les trois fantastiques. Eva Rock, Mickaël Darmon, Axel de Tarlé arrivent au sommaire ce matin. Le coût du travail en Europe qui peut varier de 1 à 8 et l'intervention du président Macron que l'on attend toujours.
Bienvenue à tous, il est 6h43. Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Le pire naufrage depuis le Titanic, l'Estonia engloutie en mer Baltique, 852 personnes avaient péri, c'était en 1994. 25 ans plus tard, quelqu'un va peut-être payer. Un procès commence aujourd'hui à Nanterre pour établir les responsabilités et pour éventuellement indemniser les survivants et les familles des victimes. Le cavalier seul, Emmanuel Macron s'oppose aux négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. Le président français considère que lorsqu'on a quitté l'accord de Paris sur le climat, on ne peut pas être un partenaire de confiance. Enfin, une bonne nouvelle sur le front économique. Selon l'enquête annuelle du Pôle emploi, les intentions d'embauche pour 2019 sont en forte hausse, presque plus 15%. Ça représente près de 350 000 projets de recrutement supplémentaires.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il vous guide dans les méandres de l'actu comme un phare dans la nuit. Voici les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique et Axel de Tarlé pour l'économie. Trois experts prodigieusement compétents, mais surtout extrêmement réactifs. Surtout quand l'actu fait craindre le pire, comme par exemple une pénurie. Un produit dont Axel, notre dauphin d'or, ne pourrait pas se passer.
Le vignoble du Mâconnais a déjà été touché la semaine dernière. Reportage Jean-Luc Bougeon.
Plus de Mâcon village.
Calmez-vous Axel, on s'organise, on va avoir du pouille fuissée. Axel, je vous laisse digérer l'info. On commence par la politique avec vous, Mickaël Darmon. Le président de la République, on le disait, va s'adresser aux Français dans les prochains jours. Il annoncera ses premières décisions suite à la contribution des Français au grand débat. Quelles sont les informations dont vous disposez, Mickaël ?
Alors ce sera certainement début de semaine, donc selon plusieurs sources, lundi ou mardi. D'autres disent même dès dimanche, parce qu'on sait à quel point on aime être en trompe-l'œil à l'Élysée, hein, sur le plan de l'agenda. En fait, tout dépend des retours de la machine administrative sur certaines mesures qui sont en train d'être passées à la moulinette. Sur la forme, on sait que le président réfléchit toujours à plusieurs formules d'intervention à la fois. Depuis d'ailleurs une quinzaine de jours, ses équipes ont testé plusieurs possibilités d'expression télévisuelle, mais le président va devoir opter soit un entretien, soit une adresse solennelle. Ces derniers jours, l'Élysée, on disait, faisait savoir, le président s'exprimera quand il sera prêt. Manifestement, il a aussi décidé de se conformer au calendrier qu'il avait fixé dans sa lettre aux Français. Fin du débat, 15 mars, restitution un mois après. Il est donc temps de passer aux réponses, parce que sinon la dynamique du grand débat pourrait se retourner contre l'exécutif.
Quelles sont les pistes des annonces présidentielles, Mickaël ?
Alors, il devrait y avoir des propos sur la fiscalité. Emmanuel Macron est confronté d'ailleurs à une double exigence, hein. Mettre fin à cette exaspération fiscale, hein, décrite par Édouard Philippe, mais aussi annoncer des mesures pour soutenir l'économie. Le volet institutionnel serait aussi abordé. Mais d'une manière générale, il faut savoir que le principe est d'étaler les annonces entre maintenant et après les élections européennes. Entre la sortie du grand débat et le premier scrutin national depuis 2017, eh bien Emmanuel Macron s'apprête la semaine prochaine à frapper les 3 trois coups de l'acte 2 de son quinquennat. Et une fois de plus, il sera seul en scène.
Affaire à suivre. Merci beaucoup, Mickaël Darmon. Axel de Tarlet, on passe à l'économie avec un ratio étonnant. Le coût du travail varie de 1 à 8 en Europe et la France est l'un des pays les plus chers.
Voilà, c'est Eurostat hein, qui publie le hit parade donc, du coût du travail. Alors là où il est le plus faible, vous voyez, puisque je vous ai imprimé l'étude,
mais nous on voit.
C'est la Bulgarie, donc, où le coût du travail, c'est-à-dire salaire plus charge, c'est 5,40 euros de l'heure. Le pays le plus cher en Europe, c'est le Danemark, 43,50 euros, donc 8 fois plus, suivi du Luxembourg, la Belgique. La France est le sixième pays le plus cher de l'Union européenne, avec un coût du travail de 35, alors chargé, hein, donc charge plus salaire de 35,80 €. On est devant l'Allemagne, qui est, vous voyez, on est plus cher que l'Allemagne. Ce qui d'ailleurs montre bien notre problème, c'est qu'on sait très bien que le Made in France est perçu comme de qualité moyenne, mais le coût.
Ça dépend pourquoi, parce que le Made in France, par exemple le cognac, mon cher Axel.
Même ça, c'est du luxe. Oui.
Ah, c'est eh ben justement, luxe. C'est tout le sens de ma chronique que vous venez de soulever.
Ah,
comment on sort de cette situation? Mais oui, comment on sort de cette situation où finalement on est l'un des pays les plus chers d'Europe? Il y a la première solution qui est de vouloir être moins cher que les autres. Mais alors, vous voyez que c'est un combat très difficile. Rien que pour être dans la moyenne européenne, il faudrait qu'on baisse le coût du travail de combien? J'ai calculé de 23%. Oui, qui serait
ça,
prêt autour
oublier,
de cette table à voir son salaire divisé de 23%?
Ah, ça, non.
Alors, il y a une autre solution. Que peut-on faire? Ce que vous venez de dire, c'est-à-dire faire de l'excellence, c'est-à-dire faire du haut de gamme plutôt que du pas cher. Et si vous regardez les secteurs là où on excelle en France, eh bien c'est quoi exactement? Vous venez d'en citer un, tout ce qui est viticole. On achète du vin français, non pas parce qu'il n'est pas cher, on achète parce que c'est le meilleur vin du monde. En volume, les Italiens sont devant nous. En valeur, la France est numéro 1, 10 milliards à l'export. Autre secteur, le luxe, par exemple, on achète un sac Vuitton, pas parce qu'il n'est pas cher, parce que c'est un produit d'exception. On achète de l'aéronautique, je vous cite tous les secteurs où on cartonne à l'export. L'aéronautique, 20 milliards à l'export. Les Airbus, leur première qualité, c'est pas d'être pas cher.
Oui, mais est-ce qu'on peut se concentrer là-dessus? Est-ce que ça va suffire pour faire des emplois dans la France
entière? Même dans
des
secteurs qui ont l'air anodins, comme le tourisme. Pourquoi vient-on en France? Pourquoi va-t-on dans les stations de ski des Alpes? Pourquoi va-t-on sur la Côte d'Azur? Ce sont des destinations très chères, mais qui attirent le monde entier et qui génèrent 17 milliards d'euros à l'export. Donc vous voyez, en tous les cas, ce pari du haut de gamme est certainement plus gagnant que le pari du pas cher. Et écoutez, le haut de gamme, ça marche. On en fait la preuve tous les matins ici autour de cette table.
Ah oui, flattez-nous, mon bon Blaise. Eva Rock, qu'on reste sur la qualité? On reste sur le très très haut de gamme, le haut du panier avec Eva Rock. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé?
Alors,
ce soir,
je commence par vous conseiller Astrid et Raphaël. C'est sur France 2 ce soir à 21h. C'est une fiction policière. Un premier épisode qui pourrait donner naissance à une série si les audiences sont au rendez-vous. Et pour séduire les téléspectateurs, c'est un duo de femmes. La commandante de police Raphaël est incarnée par Lola Devers et une agent assermentée qui travaille à la documentation qui s'appelle Astrid, qui est jouée par Sarah Mortensen. Rencontre.
Je voulais juste voir ce dossier.
Par contre, je vous demanderai de ne toucher à rien car il règne ici un ordre complexe incompatible avec votre désorganisation. Merci.
Bon. Je vois que ma réputation est arrivée jusqu'à la doc. C'est Martino qui vous a dit ça?
Non, ce n'est pas Martino. Ce sont vos procès-verbaux. Ils sont toujours bizarrement structurés et pleins de fautes d'orthographe. Je mets toujours un temps fou à me retrouver dans vos affaires.
Astrid, elle a une particularité. Elle est atteinte du syndrome d'Asperger, ce qui donne lieu à des scènes cocasses, mais aussi émouvantes. Et puis, une explication de texte sur la nécessaire intégration des personnes autistes dans le monde du travail. Et ensemble, les deux femmes vont enquêter sur une série de meurtres. Alors, verdict, pour tout vous dire, je ne suis pas convaincue à 100% par la série. La réalisation est très classique. Il y a un manque de réalisme criant sur l'univers policier. Les seconds rôles ne sont pas toujours convaincants. Et pourtant, il y a quand même un truc. Le duo fonctionne très très bien, notamment grâce aux deux comédiennes remarquable, donc Lola Devers et Sarah Mortensen, avec une pointe d'humour qui apporte un soupçon de légèreté dans la série. Une série qui, avec des épisodes plus courts, plus ramassés et sans doute plus rythmés, pourrait être une formule gagnante pour France 2. Et puis pour ceux qui préfèrent le cinéma à la fiction télé, je ne peux pas passer à côté de ça. Deux films à voir et revoir. Dimanche, France 2 rediffuse à 22h35 un chef-d'œuvre avec le père de Lola Devers.
On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche.
Est-ce que vous allez laisser le son jusqu'au bout?
Décontracté du gland.
Eh oui, hein, bravo.
Mais oui, bien sûr que je laisse le son jusqu'au bout. Patrick Devers, Gérard Depardieu et Miu Miu en goguette sous l'œil malicieux de Bertrand Blier. Le premier film de Bertrand Blier, un film de 1974 qui prend la liberté, vous l'avez reconnu.
Les Valseuses.
Mais exactement. Et puis en première partie de soirée, Arte joue la carte de la comédie dramatique.
Les plus confidentielles.
Là aussi, vous
avez
trouvé.
Le premier jour du reste de ta vie,
porté par Jacques Gamblin notamment et Zabou Breitman. Boîte de mouchoirs obligatoire pour cette sublime chronique familiale, c'est sur Arte à 20h55.
Merci beaucoup Eva Rock pour ces conseils. Merci Axel de Tarlé, Mickaël Darmon. L'équipe des Fantastiques sera de retour lundi aux alentours de 7h moins le quart. Céline, une dernière info, un conseil.
Il faut en mettre partout, c'est très bien le vinaigre blanc.
Merci.
Europe 1. 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains, touche à sa fin, mais ne bougez pas d'un cil, car avant de céder le micro à Nikos Aleagas, nous allons débriefer sa matinale d'hier. Au programme, débat scientifique au sommet entre deux pontes de la physique-chimie, les professeurs Mbida et Cabrol, auto-sabordage du journal avec David Doucan qui s'amuse à tendre des pièges à Nikos, et puis encore beaucoup, beaucoup de confusion au moment d'évoquer les époux Ghosn.
Ça, en même temps, Carole Carlos...
Oui, c'est vrai que c'est pas simple, on s'y perd un peu. Le meilleur est à venir, le débrief du 7 9 à 6.
Il est 6h53, bon réveil. Il est 6h54, Mathieu Noël.
Oui, et ça fleure bon le week-end pour Debout les copains, mais vous connaissez ma générosité, mon altruisme, mon amour pour mon prochain, surtout quand mon prochain est un grec répondant au nom d'Aliagas. C'est l'heure du débrief de la matinale, et ce matin, plus qu'un débrief, une enquête. Une enquête qui, pour une fois, mon cher Nikos, va vous dédouaner. Car oui, hier, vers 8h07, la France entière, celle en tout cas qui nous écoutait, s'est demandé pourquoi, pour lancer le sujet sur le retour du froid, alors que vous présentez la matinale d'Europe 1 et non Debout les zouzous sur Disney Channel, vous avez déclaré, je cite...
Gla gla gla, c'est le retour du froid.
Gla gla gla, c'est le retour du froid. Nikos a pourtant pleinement conscience que ses auditeurs n'ont pas 5 ans et demi. D'autres de ses phrases en témoignent.
Moi, j'avais jamais vu un trou noir d'aussi près, quoi. Tu vois.
Alors, pourquoi le choix de ces mots? Eh bien, il faut savoir qu'en réalité, ce qu'on appelle les relances au sein d'un journal ne sont pas écrites par le présentateur de la tranche info, mais par le journaliste qui présente ce journal. En l'occurrence, un certain David D. David Doucan, pour qui la présomption d'innocence ne va pas tenir longtemps, puisqu'il est en effet passé aux aveux hier matin, avant même de commettre l'odieux sabotage du gla gla gla. Il l'avouait, et même s'en vantait, durant le journal de 6h30. Écoutez.
À 8h, j'ai déjà fait le coming next du 8h. Je lui ai mis à suivre dans ce journal, gla gla gla.
À suivre dans le journal, ne rangez pas tout de suite la doudoune, elle peut servir. Gla gla gla, c'est le retour du froid. Voilà, voilà.
Voilà Nikos, vous pouvez désormais dormir tranquille. David Doucan, alias le savonneur de planche, le tireur de balles dans le pied, ne vous embêtera plus, il a été démasqué. Enfin, je l'annonçais tout à l'heure, comme je sais nos auditeurs férus de science, j'aimerais revenir sur ce débat digne des plus grands colloques de Harvard. Entre Lolo Cabrol et Anissé Mbida, notre expert innovation, qui nous parlait d'une bactérie capable de digérer les gaz à effet de serre. Cabrol a voulu montrer qu'il pouvait parler science d'égal à égal avec son cadet. Mauvaise idée, la supercherie a été assez rapidement percée à jour.
Sa bactérie, c'est la Plocorococcus, non ?
Non, c'est MPO, on l'appelle.
Ah bon ?
Celle-ci, elle est dans le sol.
Elle est dans le sol. Ah, la vôtre est dans le sol, d'accord.
Attendez, Lolo, le bluff aurait pu marcher, mais non. Pense à lui. Bonne journée, Nico.
Oh, j'en voulais encore.
Ah bah oui, non, c'est déjà fini.
Eh oui, mais vous en aurez plus lundi.
Mais enfin, ce que si vous n'avez pas dit quand il a effectivement fait le malin, David Doucan, en disant je vais faire gla gla gla. Il me la vendait avant 8 ans en disant si tu veux, mais t'es pas obligé.
Oui. Oh,
vous l'avez pas entendu, celle-là.
Jusqu'au bout.
Il l'a prévenu, oui.
Mais comme je suis bon joueur et vous qu'il a voulu faire son truc, je l'ai dit. Merci, je vous souhaite un bon repos pour ce week-end.
Merci,
et je vous dis
Nicolas,
à lundi, mon cher Mathieu.
Mathieu Noël. Tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.